Au Café Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachama.
Et nous parlons aujourd'hui de la maladie à virus Ebola. Merci à vous tous d'être venus de Mbandaka 1, Mbandaka 2, Mbandaka 3, Ikongo Wassa, de Bolenge et de partout ailleurs pour participer à cette émission de la vie au quotidien. Eh bien, nous allons parler aujourd'hui des pratiques à risque et perceptions erronées sur l'épidémie d'Ebola. Et sur ce plateau, nous avons nos intervenants, Dr Bokenge, qui est chargé de la riposte au ministère de la Santé, est avec nous sur ce plateau. Dr Théophile, bonjour.
Bonjour, Jody.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons également sur ce plateau M. Fabien Mungunza, président du cadre de concertation de la société civile. M. Fabien, bonjour.
Bonjour, M. Joly.
Bienvenue à cette émission. Et M. Jean-Louis Eoma, il est socio-anthropologue à l'université de Mbandaka. M. Jean-Louis, bonjour.
Bonjour, M. Joly.
Voilà, bienvenue dans cette émission au Capi Service. Et merci à toute la grande équipe de production, Patrick Yassongwa, Tati Mapuku, Paul Richard Malengela, Dominique Wolombi, Jean-Marc Matouaki, sous la supervision d'Elisabeth Zippo, directrice de Radio Capi. Sous vos applaudissements, c'est parti. Au Capi Service, en direct de l'ISP, Mbandaka. Bien, vous savez, en période d'épidémie, il y a certaines pratiques à risque strictement déconseillées pour prévenir la propagation du virus à grande échelle. Pour les cas de la maladie à virus Ebola, dont les premiers cas ont été détecté à Bikoro, il est par exemple conseillé de ne pas manipuler une bête trouvée morte dans la forêt, de ne pas se saluer et de ne laisser qu'au personnel qualifié le soin d'inhumer le corps de la personne décédée de cette maladie. Cependant, la population a du mal à observer ces principes en cette période de résurgence de l'épidémie à virus Ebola. Alors, quelles sont les pratiques prohibées dans la prévention de la maladie à virus Ebola? C'est là que nous allons parler tout à l'heure avec nos intervenants. Je commence avec Dr Bokenge Théophile. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de la riposte de l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Encore une fois, bonjour docteur.
Bonjour Jody.
Quelles sont les pratiques à risque que parfois les gens ont du mal à abandonner par rapport à Ebola?
Merci beaucoup. Je me suis rendu compte que sur ce plateau, je suis le seul à ne pas être populaire.
Docteur Théophile est devenu aussi populaire.
Hein? Je crois que le fait de vous dire que je suis le coordonnateur de la riposte à l'épidémie actuelle de la maladie à virus Ebola devrait également faire de moi
un homme
populaire en Mbandaka. Merci beaucoup. Vous savez, quand nous avons, au cours de la première tranche, fait allusion aux voies de contamination de cette maladie, ce que nous allons dire maintenant, c'est en rapport avec ces voies de contamination pour parler des comportements à risque. Le fait de toucher ou de manipuler un malade Ebola confirmé, un malade Ebola sans protection, fait de vous une personne à risque. Je reviens un tout petit peu en arrière, non, je vais terminer par là. Le fait de toucher aux habits ou autres objets, nous disons toujours sans protection, d'un malade Ebola. Fait de vous une personne à risque. C'est un comportement à risque. Le fait de manger des animaux ou un animal qu'on a trouvé mort dans la forêt. On a été dans la forêt, on a vu un animal mort. On a cru être en face d'une manne tombée du ciel. Vous ramenez cela à la maison.
Chancelo Kopama.
Oui, voilà. Vous ramenez cela avant qu'on ne puisse amener cet animal à la cuisson. Vous savez que la cuisson, c'est tout un processus. On va laver, on va. Depuis la forêt, quand vous l'avez transporté, vous expose dangereusement à la maladie à virus Ebola. Nous avions dit ici que la maladie se transmettait par les moyens des liquides biologiques aussi. La sueur, la salive. Moi, je me souviens, je ne sais pas si cela est réalisé couramment ici à Mbandaka. À Kinshasa, d'où je viens, quand on se salue, on se cogne des têtes. On se cogne des têtes. Pac, pac, pac. Masta boni. Et puis, les jeunes, ils se tapent là. Et puis, vous savez comment vous faites.
Oui, ils font beaucoup de gestes là.
Beaucoup de gestes, tout ça. Les bisous. Moi, je me souviens, quand nous, on grandissait, tu ne peux pas donner de bisous à une femme qui ne t'appartient pas.
Ah, aujourd'hui, c'est plus le cas.
Même pas à sa fiancée, parce que les choses ne sont pas encore conclues. Aujourd'hui, on passe très vite à ça. C'est un comportement à risque. Sans se rendre compte, on est en train de prendre des risques énormes. Elle est une maladie qui tue. La létalité est très élevée. Elle part de 49%. Elle peut atteindre 100%. Le fait, vous savez, on a dit que même avec les spermes, vous voyez un bel homme bien coiffé, ça vous dit pas grand-chose, hein? Parce qu'il y a une période d'incubation qui est là de 2 à 21 jours.
Docteur, vous voulez dire qu'Ebola se transmet aussi par la voie sexuelle?
Absolument. Il y a des études qui sont en cours aujourd'hui qui ont déjà démontré la présence du virus Ebola dans les spermes même 6 mois après. Et même au-delà. 6 mois après. Combien? 500 jours. Le virus est présent dans les spermes. Les sécrétions vaginales. Vous savez, tous ces comportements, quand on va avec qui on veut, ce sont des comportements à risque. Le fait de manipuler le corps. Vous savez, nos coutumes nous rapprochent très, 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 très bien de nos morts. Avec tous ces rites qui sont là-bas, on vient, on lave les corps. La défunte ou les membres de famille sont proches du corps. Sinon, vous êtes blâmés. Au nom de la coutume, eh bien, vous n'allez pas bien vivre dans la suite de votre temps.
Oui.
Donc, tout ça, et quand il y a un défunt, la famille se réunit pour partager les butins. Et ce cas-là est connu. Nous avons un cas comme celui-là, ici, en Bandaka. Il y a ce monsieur qui est parti aux funérailles d'un défunt, d'un malade
d'Ebola.
Ebola, d'un défunt d'Ebola.
Oui.
À Bikoro. Il a été appelé là-bas en famille, on a partagé les habits du défunt. Et lui, il a eu sa part de butin. Il est revenu avec ici en Mbandaka. C'est son épouse informée, comme nous sommes en train de vous informer maintenant, qui a eu ce bon réflexe de saisir nos équipes d'alerte. Malheureusement, l'homme est informé que les équipes d'alerte sont en train de venir.
Il a fui.
Il s'est échappé jusqu'à ces jours. Alors que ce butin-là était un butin meurtrier.
D'accord. Docteur,
meurtricide.
Docteur Bokeng, je reviens à vous. Le temps de donner la parole au socio-anthropologue, Monsieur Jean-Louis Ehoma. En tant que socio-anthropologue, comment expliquez-vous cette pratique lorsqu'une personne décède, le membre de la famille veut l'entourer parfois les toucher, chanter, danser tout autour. Et quand on leur dit que par rapport à Ebola, c'est très dangereux, ils ont du mal à accepter cela.
Oui, ça témoigne la solidarité. Et la solidarité mécanique. Dans les milieux ruraux, les gens sont souvent ensemble. Il y a le contrôle social. Et à ce niveau-là, quand quelqu'un est décédé, ipso facto, tout le monde doit être là pour se retrouver et surtout saluer si c'était un Bokulaka. On ne peut pas lâcher le compte de Bokulaka comme ça. Mais maintenant, il faut une sensibilisation.
Quand un Bokulaka, un notable décède, ça commence à le faire.
Il faut aller l'honorer. Aller l'honorer, parler de lui, chanter sur lui et même l'embrasser. C'est autorisé. Dans la coutume mongo, surtout.
C'est dans la coutume mongo.
Dans la coutume mongo.
Ok. Alors, docteur Bokenge, je reviens à vous. Les autres pratiques à risque, vous étiez en train d'énumérer, il y en a plusieurs.
Oui.
Quelles sont les autres pratiques à risque?
Ok. Les autres pratiques à risque sont, découlent toujours des voies de contamination. J'étais en train de dire, et surtout au sujet des rites coutumiers, à l'occasion des morts, eh bien, vous allez voir que on doit laver les corps. Et cette eau-là qu'on lave est aussi matière, on distribue cette eau-là.
Ah bon? Qu'est-ce que les gens vont en faire?
Eh bien, il y en a qui prennent des portions et qui amènent, si c'est des jeunes filles, selon qu'il s'agissait d'une femme ou d'un homme, eh bien, c'est soit cette eau-là est porteuse de chance pour le mariage, est porteuse, je ne suis pas en train de mentir. Moi aussi, je sors des milieux coutumiers, je suis un Lokélé. C'est pas différent de vous, des Mongo ici. Je suis un Lokélé, nous avons les mêmes coutumes.
Les mêmes coutumes, les mêmes
pratiques. Je parle du vécu. Je ne suis pas en train de dire des choses en l'air, mais chers compatriotes jeunes.
Je reviens à vous tout à l'heure, monsieur Fabien Mungunza, vous êtes président de la société civile, du cadre des concertations de la société civile. Alors, au niveau de la société civile, qu'est-ce qui est fait pour sensibiliser de plus en plus la population par rapport à ces pratiques à risque? Oui, je reviens à vous tout à l'heure.
Je voudrais d'abord dire que pour la société civile de la province de l'Équateur, l'épidémie virus Ebola est une réalité. Et nous en sommes au niveau où nous demandons à ceux qui nous gèrent de renforcer le mécanisme de riposte pour faire en sorte que la population soit davantage préservée. Chez nous, agronomes, nous avons l'habitude de dire qu'il vaut mieux prévenir que guérir. C'est ainsi que toutes les pratiques qui visent à nous prémunir de ces dangers-là, même si on vient vous prendre le cadavre, parce que nous ne savons pas de quoi est mort la personne en question, c'est aussi possible que ce soit la maladie à virus Ebola qui en soit responsable. Mais nous n'avons pas les moyens de préciser la réalité de la mort. Si on vient vous prendre le cadavre, dans ce principe-là, il vaut mieux prévenir que guérir.
Il faut laisser...
Je crois qu'il faut laisser. Laisser les personnes habilitées aller enterrer de façon sécurisée notre mort. Nous en sommes, comme j'ai dit, à interpeller les coordonnateurs pour dire, comme certains l'ont évoqué, que la sensibilisation telle qu'elle est menée jusque-là, elle ne paraît pas nous satisfaire.
D'accord, je reviens à vous tout à l'heure. Des questions dans la salle par rapport aux pratiques à risque liées à la maladie à virus Ebola au CAPI Service Mbandaka en direct de l'amphithéâtre de l'ISP. Mbandaka, des questions, Paul Richard. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Quelle est votre préoccupation?
Je suis lycée Maloka de l'ISDM Mbandaka.
Votre micro, s'il vous plaît. Allez-y.
Oui, je suis lycée Maloka de l'ISDM Mbandaka et cadre de la société civile.
Bon, j'ai retenu qu'il est de la société civile, on entend quand même. Quelles sont les pratiques à risque par rapport à la maladie à virus Ebola? Oui, allez-y.
Ok, je voulais intervenir par rapport à cette pratique que le docteur vient d'énumérer. La maladie à virus Ebola existe. Ça, c'est la théorie. Mais la pratique n'est pas une réalité. Pourquoi je dis ça? Parce que le docteur a dit qu'il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Nous sommes d'accord avec le docteur. Mais la pratique de la maladie, on va aider la communauté à la riposte qui est à la sensibilisation des médias et communication. Mais jusque là, si vous faites une analyse dans la salle, vous allez comprendre avec moi que la population n'est pas informée. Mais si les produits fabriqués n'est pas consommé, on accuse les fabricants. Cette maladie, qui sont les responsables pour nous informer, ce sont les médecins. Alors, si la personne dit que la maladie, ça vient de telle façon, il faut savoir directement que la personne n'est pas informée. Mais en réalité, la maladie existe. Mais
d'accord,
quels sont les moyens pour atteindre cette communauté, pour changer ses comportements?
D'accord.
Il n'y a qu'un processus de sensibilisation.
D'accord, vous déplorez le fait qu'on ne communique pas assez, c'est ça, par rapport à la maladie à virus Ebola. Bonjour monsieur.
Oui, bonjour monsieur le journaliste. Moi c'est Isaac Nkouli Londeni, l'étudiant de l'ISP Mbandaka. Ce n'est pas nécessairement une question, mais c'est plutôt une objection ou un contraste. Vous savez, nous sommes dans la radio, il y a beaucoup de gens qui nous entendent à ces moments. Et lorsqu'on doit parler, on doit tenir compte de tout ça. Et on sait bien que la vérité était toujours blessante, mais malgré tout ça, on doit quand même la dire. Monsieur le docteur, je rappelle que votre, je perds encore le nom, c'est
Madame Marie-Claire
qui disait que la maladie à virus Ebola tue par jour, donc dans une journée, à peu près...
Peut tuer dans une journée
1000 personnes, n'est-ce pas? C'est ça ce qu'elle avait dit. Mais dans un pays, voilà, vous avez bien ciblé, s'il vous plaît madame, vous avez ciblé que la province qui est affectée par cette maladie, c'est la province de l'Équateur, plus particulièrement à Bikoro et ici à Mbandaka. Madame, moi qui vous parle, je suis le natif du terroir. Et j'ai toute une pléthore des familles à Bikoro. La preuve en est que il y avait l'aide de notre famille qui venait ici lors d'une formation de sensibilisation de cette maladie, qui me disait, mon fils, je suis venu juste pour récupérer l'argent. Il n'y a presque rien là-bas. Je ne vais pas citer le nom parce que nous sommes dans une émission, mais je vous rappelle également, dans certaines parcelles de la ville, on commence d'ailleurs à chasser les sensibilisateurs parce qu'on a compris également qu'il n'y a presque rien. Donc prière d'avoir l'esprit de la vérité de dire que non, il n'y a plus d'Ebola ici et vous prenez vos histoires, vous rentrez.
Voilà, ça c'est votre point de vue. Mais les experts confirment qu'Ebola existe réellement. Alors nous parlons des pratiques à risque par rapport à Ebola. Allez-y.
Moi c'est Nikes Mayamba, je vous dis bonjour. Nous savons qu'Ebola existe. Mais je suis forestier de formation. La forêt, c'est le réservoir d'Ebola. Quelle est la politique ou les méthodes? Parce que je vois les gens se focalisent sur la santé humaine. Quelle est la politique, si le docteur peut me dire, quelle est la politique qu'on a menée jusque-là vis-à-vis du gibier? Apparemment, si je constate, parce que j'étais dans les environs de Bikoro, à Kalama précisément, la chasse continue, on n'a pas suspendu la chasse, on n'a pas même sensibilisé les chasseurs. Quelle est vraiment la politique du gouvernement? Je voulais poser cette question.
Pour sensibiliser les chasseurs.
Oui.
D'accord.
C'est ça ma question.
Merci beaucoup. De l'autre côté, question. Bonjour monsieur.
Bonjour, je suis Benjamin Mutombo. Je suis communicateur. C'est avec ahurissement que je suis en train de suivre certaines déclarations ici. Je demande à nos amis de comprendre que ce que nous disons ici a réellement de l'impact sur nos ménages, sur ceux qui seront amenés donc à suivre les ondes de la radio Okapi, qui est même une radio interplanétaire. Bon, ça je le confirme, c'est moi, ça m'engage. Mais qu'est-ce que je veux dire? Je suis un animateur culturel, je suis dans la comportementologie. Donc, chers amis, nous sommes devant un problème qui demande que ceux qui ont des lunettes telles que celles qu'on doit venir chercher dans un amphithéâtre comme celui-ci, ces gens-là aident la communauté. Et je me suis dit que ce n'est même pas par hasard qu'on a placé cette rencontre à l'ISP Mbandaka. Donc cette maison est construite avec une mission, comme une institution de l'enseignement supérieur universitaire, vous dispensez la science. Et vous êtes la lumière sur la communauté. Je ne sais pas. J'ai failli comprendre que les gens se posent une question assez compliquée. Pourquoi nous, s'il y avait Ebola, pourquoi nous ici nous ne sommes pas morts? Ce matin, j'y étais à la réunion matinale de la coordination, quand on m'a présenté la sœur survivante et qu'on l'appelait pour pouvoir nous saluer. Quand je l'ai vue, quand je l'ai entendue parler, mes chers amis, j'avais des larmes. Peut-être que vous auriez souhaité que dans chaque maison, qu'il y ait un mort, une sœur qui meurt, ou un papa, ou un frère, ou un enfant. En ce moment-là, on viendrait ici avec les mains sur la tête pour dire « heureuse ». Mais voici ce que je veux pour chuter. Mes chers amis, Ebola, c'est une réalité. Ce sont les yeux de vos scientifiques qui l'ont confirmé. Vous voyez aujourd'hui, vous dites la tradition, le tradit praticien a dit des choses. Mais si vous regardez tout cela, nous sommes déjà habillés. Nous avons des chaussures, nous avons des vestes, nous avons des t-shirts, tout ça. Ça fait que la tradition là, elle n'est pas restée telle qu'elle a été. Faites attention et écoutez aussi l'évolution. Nous sommes dans un amphithéâtre qui est appelé à donner la lumière sur la ville de Mbandaka et à vous donner de nouvelles lunettes pour comprendre les choses que tout le monde ne peut pas comprendre. Pour chuter.
Oui, rapidement.
Pourquoi on extrait les corps? On ne peut pas venir acheter un corps. C'est très cher, c'est des choses très graves. On extrait le corps, on extrait la personne qui est malade pour l'amener entre les mains du personnel qui doit donner les soins. On vient prendre le papa, la maman qui est décédée par amour pour l'amener là où on doit assurer la sécurité de la progéniture. Mais dans ces conditions, vous auriez voulu que la maman qui décède, le papa qui décède, et que l'on offre comme ça l'occasion du suicide à toute la maison. C'est méchant, mes chers amis. On n'achète pas un cadavre lorsque l'un papa, une maman, est décédé d'Ebola. Mes chers amis, il y a une opération qui s'est faite autour du décès. On vient incinérer le matelas, le lit, même le meuble sous lequel le malade s'était assis, les nattes qui sont là, on brûle. Mais lorsqu'on a brûlé comme ça, si c'est le papa qui est décédé, si c'est la maman qui est décédée, qu'est-ce que la famille a? Et dans ces conditions, par élan de solidarité, on vient, on D'accord. prend le corps pour l'inhumer avec dignité. Et on se dit parce que maintenant tout est décimé. On dépose ce qu'on appelle le kit de solidarité. Un geste de solidarité, mes chers amis.
Allez-y.
Ne tournons pas ça à la dérision. C'est un geste de solidarité, mes chers amis.
Tolérance, s'il vous plaît.
Voilà.
Tolérance, laissez-le terminer, allez-y.
C'est une réalité horrible. L'ISP Mbandaka doit nous aider avec les lunettes de la science pour pouvoir éclairer la communauté. C'est une responsabilité.
D'accord, merci beaucoup. Nous allons prendre encore d'autres questions tout à l'heure. Le temps de suivre le témoignage du père Lucien Ambunga. Il est missionnaire lazariste à Itipo. Il a souffert d'Ebola et il a été guéri. Il devait d'ailleurs nous rejoindre, être avec nous ici, mais c'était pas possible. Mais au moins, il a accepté de s'exprimer. Je vous invite à suivre son récit.
Oui. Moi, c'est père Lucien Ambunga, le rescapé de virus à Ebola. Je suis prêtre curé de la paroisse Saint-Joseph à Itipo. Et puis, j'ai été atteint de cette maladie, du virus de Ebola, suite à une intervention comme prêtre pastoral que je partais pour rendre service par rapport à ma qualité comme curé de la paroisse et prêtre. Une famille d'un infirmier qui voulait rendre l'âme et sont venus pour me demander si je pouvais quand même aussi donner l'option à l'infirmier, le frère qui voulait rendre l'âme. Arrivé là-bas, j'ai prié avec lui. On a fait le tout avec lui, mais en voulant quand même lui mettre le signe de la croix, il a vomi sur moi. Et quand il a vomi, derrière moi, maintenant, la sœur était là, m'a dit, attention père, retirez-vous, parce que on vient juste me dire que la personne qui souffre là est atteinte de virus à Ebola. Oh, ça va la sœur, pourquoi vous ne pouvez pas quand même me dire ça avant? sa soeur était excusée et puis m'a dit qu'elle elle aussi ne savait pas. Bon, on rentre à la communauté, j'ai prévenu mes confrères et puis les jeunes qui sont toujours à côté de moi de ne pas m'approcher, mais de prier pour moi. J'ai pris bain et j'ai commencé aussi à motiver, à sensibiliser les gens qu'il y a le virus. Et les gens étaient têtus, ils ne voulaient pas me toucher. C'était les choses là du village, des cocos-là, les cris, je ne sais pas moi. Je ne voulais pas nous écouter. Je continuais aussi à faire mon apostolat normalement. Mais petit à petit, je sentais en moi quand même le malaise. Un jour comme ça, en pleine messe, le matin, la messe matinale, subitement je suis tombé et les gens criaient sur moi, Sangwa Koufi, Sangwa Koufi, Sangwa Koufi. Un coup comme ça, je suis réveillé. Après, on verra que les tensions étaient montées. Et le médecin, le docteur est venu me dit que, père, pourquoi vous raisonnez beaucoup? Vous avez beaucoup de pensées sur quoi? Attention, vous ne serez pas quand même certain. Il ne faut pas quand même aussi beaucoup réfléchir comme ça. Et après, j'ai dit, je me fais venir quand même aussi les gens-là de sensibilisation et puis pour me prélever. Ils sont venus. Ils m'ont prélevé et après, deux jours après, ils viendront me dire que non, j'étais atteint du virus. Et là, j'étais dans ma chambre chaos, température à haut niveau. Je ne pouvais plus manger. Bon, j'ai eu le courage, j'ai appelé le père Jean-Pierre pour me confesser. Je me suis confessé et le père commençait à pleurer. Moi, j'ai dit, il ne faut pas pleurer. Suite au sacrement, comme prêtre, je ne mourrai pas. Je vais juste pour montrer aux autres que là, à Bikoro, à l'hôpital, les gens ne meurent pas toujours. C'est là où on traite les gens et puis moi je serai traité et puis je vais rentrer pour continuer ma pastorale. Et cela a été fait. C'était le dimanche de la Pentecôte que j'ai quitté la communauté et là je ne pouvais pas monter à bord du véhicule. Et personne ne pouvait aussi m'approcher parce que tout le monde avait peur. Je suis allé moi-même, j'ai porté ma soutane, je suis entré au véhicule, et là tout le monde qui pleurait, c'est moi. Et je suis parti. Nous sommes arrivés à partir de 17h à l'hôpital, et directement, on est venu me consulter, me poser des questions, après on m'a donné le médicament, tout en m'injectant le médicament. Et je l'ai eu. J'ai commencé à prendre le médicament. Mais après, deux jours après, je sentais maintenant qu'il y avait la diarrhée qui coulait sans permission. Et après, que, avec le téléphone qu'on nous avait donné là, j'ai appelé les médecins ainsi que mon supérieur provincial pour me dire que maintenant, il y a la diarrhée, il faut prier pour moi parce que Je me sens pas bien maintenant. Je dois partir. Le professeur m'a dit, il ne faut pas quand même se dire c'était là. J'informe maintenant le docteur Michel qui doit venir là-bas pour vous perfuser. Il m'a toute première fois que je sois perfusé. On m'a perfusé le matin. Et là, pour aller quand même aussi faire les grands besoins, je sentais maintenant que je n'avais plus la diarrhée. Et c'était à partir de là que le médecin qui entrait là-bas ne me donnait plus parce que j'avais déjà fini mon cure. Et puis, il venait seulement mettre la température, regarder ma température, si j'étais quand même aussi en bonne situation. Après, une semaine après, de dimanche au dimanche, j'étais sorti avec les trois autres, un charlatan qui se prenait comme un marabout de l'infirmier qui était décédé, et puis une infirmière, et puis la femme aussi du décédé. De l'infini qui était décédé. On était sortis ensemble, quatre personnes à la fin. Et moi, je suis là. Maintenant, avec quelque chose un peu de morale, un peu l'autre là, mais il y a des gens qui viennent quand même aussi me donner des conseils pour me motiver. Mais moi, je suis bien pourtant. Et les gens d'ici, au Metz, Médecins sans frontières font de tout possible pour quand même aussi ramener les gens petit à petit, commencent à comprendre quand même difficilement. Ils font un grand travail là, vraiment, pas tout facile. Merci, je remercie seulement le Seigneur, son archevêque, qui a fait l'effort, est venu lui-même en personne pour me rendre visite à l'hôpital et puis rendre visite aussi aux autres malades. Et je remercie aussi le bon Dieu, les médecins, et mes paroissiens, mes fidèles, et tout le monde qui a prié pour moi. Et je dis merci.
Voilà, c'était là le témoignage du père Lucien Ambunga, missionnaire lazariste à Itipo, un survivant d'Ebola qui vient de donner son témoignage par rapport à la maladie. Alors, d'autres réactions dans la salle. Je vois un micro ici et de l'autre côté, puis les intervenants vont répondre par rapport aux pratiques à risque par rapport à Ebola. Bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur le journaliste. Moi, c'est Bakotibe Kabadi du Freddy, le porte-parole des étudiants de l'USP Mbandaka. Ma préoccupation est celle-ci. Nous sommes dans une grande institution universitaire telle que l'ISPC. Il serait possible que les vaccins puissent passer réellement. Pourquoi? Parce que si les vaccins ne passaient pas, nous venons plus de l'intérieur. Et à l'intérieur, on peut transporter le virus. Et ces virus-là peuvent être éparpillés ainsi de suite. Et si ça tombait dans cette université, ça ne serait pas de bonnes choses. Ça, c'est ma première préoccupation.
Vous souhaitez que tous les étudiants de l'ISP soient vaccinés?
Oui, oui. Je demande au nom de la communauté des étudiants de l'ISP que les étudiants puissent être vaccinés. Pourquoi? Nous venons de l'intérieur. La majorité des étudiants viennent de l'intérieur. Il faut que les vaccins puissent être effectifs. Parce que quand nous voyons même à la cité partout, on n'a pas de vaccins. Et je demanderais que les vaccins puissent être effectifs dans notre campus universitaire.
D'accord.
Pour que nous puissions éviter toutes conséquences néfastes. Merci.
Papa Mayoka, vous avez la parole.
Merci, c'est Papa Mayoka, vous l'avez dit. C'est Monsieur Albert Mayoka.
Monsieur Albert Mayoka, suivez. Tolérance, s'il vous plaît. Du calme, s'il vous plaît, suivez la question.
Voilà, je suis enseignant à l'ISP Mbandaka.
Oui.
Je remercie la radio Capi pour avoir choisi l'ISP pour une telle circonstance. C'est une émission hautement pédagogique. Et je crois qu'à la sortie, chacun devrait sortir avec une leçon, même avec une petite phrase. Je dirais même si j'étais pasteur, avec un petit verset biblique. Je suis un peu frustré parce que ce que c'est dit ici par la radio Okapi a une portée scientifique de très grande valeur. Et la population ciblée, il s'agit de la jeunesse étudiante. C'est une jeunesse scientifique. Je suis un peu navré de voir que tout ce qu'on donne comme argument scientifique ne nous intéresse pas. Chacun reste collé à ses coutumes, à ses habitudes, et je trouve un plus grand comportement à haut risque. C'est le doute de cette communauté étudiantine.
C'est le plus grand comportement à risque.
C'est le plus grand comportement à risque.
Le fait de douter.
Comment on ne peut pas douter méthodiquement? On vous expose des cas concrets. Vous venez de suivre même un prêtre qui donne son témoignage. Et immédiatement après le témoignage du prêtre, il y a encore quelqu'un qui se lève pour nier tout ce qui s'est dit ici. C'est sûr. Alors, quelle est la leçon que moi personnellement, en tant qu'être humain et scientifique, je tire de cette rencontre? Madame Marie-Claire a dit qu'un seul cas de virus de Ebola, c'est une urgence. C'est une urgence de santé publique. Et moi j'ajoute, c'est une urgence urgente. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Papa Mayoka, Docteur Bokenge. Un instant, on va donner la parole aux intervenants et puis on va revenir. Docteur Bokenge, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jody. J'ai suivi le dernier intervenant. Nous pouvons nous entendre, s'il vous plaît.
Du calme, s'il vous plaît, suivez.
J'ai suivi le dernier intervenant qui a fait même allusion à la parole de Dieu. Je suis moi-même aussi serviteur de Dieu, quoique médecin scientifique. Je voudrais dire ici, même en se basant sur la parole de Dieu, ce qu'il a dit se confirme, parce que Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Nous sommes venus vers vous avec la connaissance sur Ebola. Et je suis en train d'enfoncer les clous sur ce qu'il nous a dit. Le premier mauvais comportement à haut risque, c'est l'ignorance. Ou c'est le refus de s'incliner devant les connaissances qui sont apportées chez vous. Nous sommes venus ici chez vous. Et j'entame donc le premier, j'aborde la préoccupation du premier intervenant qui nous dit qu'il a comme l'impression que la sensibilisation n'est pas suffisante. Nous prenons très bonne note, on ne va pas discuter sur ça. Et nous sommes déjà vers vous quand même, prenez ça comme une activité de sensibilisation.
Et quelqu'un a parlé même de la sensibilisation des chasseurs. Allez vers cette catégorie de personnes.
J'arrive. Les chasseurs font partie des couches, des cibles qui sont identifiées pour la sensibilisation. Il n'y a pas que les chasseurs, même les promeneurs dans la forêt, quand ils viennent, ils trouvent un animal mort sans cause apparente, il ne faut pas s'en approprier. Ce n'est pas une manne qui vous est donnée là par Dieu. Donc ici, je voudrais dire que pour la sensibilisation, il y a quelqu'un qui, dans la première tranche, nous a fait remarquer qu'il n'y a pas de lave-mains ici. Moi, j'en prends bonne note en tant que coordonnateur de la riposte. Il y aura des lave-mains ici. Mais comment mettre des lave-mains chez des gens qui ne veulent pas croire? Alors que c'est la plus grande précaution qui existe. Se laver seulement les mains. Avec du savon, même s'il n'y a pas de l'eau chlorée, même avec la cendre. Ça vous met à l'abri de la contamination contre ce virus qui est d'une létalité sans comparable jusqu'aujourd'hui dans le monde. Il y aura des lave-mains ici, je vous en prie, allez-y. Et passez par là, si on les met à des endroits bien stratégiques ici, on va peut-être voir avec les responsables des établissements, de l'établissement, là où on va placer les lave-mains, donnez-vous la peine de vous laver les mains autant de fois que vous pourrez le faire. Le comportement à risque, c'est de refuser. Cette indication précieuse dans le cadre de la prévention contre la maladie à virus Ebola. Ne nous serrons pas la main comme à l'accoutumée. Nous pouvons nous saluer à distance. Il y a une pratique courante. Nous ne nous serrons plus la main. Monsieur, mettez-vous debout.
Démonstration.
On se salue comme ça. Et on peut
comment
faire ça. S'il vous plaît.
La sueur. Il parle de la sueur.
S'il vous plaît, parce que par la main a touché. C'est la main qui est en activité. On touche les habits, on touche le corps. C'est rare qu'on aille toucher avec le coude. Ça a démontré où carrément, comme les musulmans, on se salue à distance. Les Américains disent « Hi, hi !» On n'est pas obligé d'aller toucher la main. Je vous assure et je vous supplie que par cette pratique-là, l'ISP Gombe,
l'ISP Mbandaka, voilà.
L'ISP Mbandaka sera mis hors contamination.
D'accord.
Je sera classé parmi hors contamination.
D'accord. Monsieur Jean-Louis
Oma. Docteur,
je reviens à vous, le temps d'accorder la parole à Monsieur Jean-Louis Oma. Par rapport à tout ce qui a été dit en ces lieux, prenez le micro s'il vous plaît.
Merci pour m'avoir accordé la parole. Comme disaient les historiens,
en tant que socio-anthropologue,
oui, la sociologie est globale totale. Pour comprendre le présent, il faut interroger le passé. Comme ça, on va baliser l'avenir. Effectivement, comme disaient les journalistes et les docteurs, nos ancêtres dans leur tradition avaient des interdits sociaux ou des impératifs sociaux qui leur demandait de changer le comportement. Aujourd'hui, l'Ebola, c'est une réalité. Nous devons changer nos comportements, surtout nos traditions rétrogrades. Nous n'avons pas de choix. Merci.
Quelles sont ces traditions qu'il faut changer?
C'est comme disait le docteur, il ne faut pas saluer les mains, hein, il faut se laver les mains de temps en temps, il ne faut pas toucher les corps des personnes, même beaucoup là, comme je disais là, qui est décédé, il faut avoir des égards, n'est-ce pas? Parce qu'on est dans une situation, un contexte socio-culturel ambigu.
Voilà. D'accord. Je vais également passer la parole au coordonnateur de la société civile.
Oui, merci pour la parole.
Par rapport à tout ce qui a été dit, qu'est-ce que vous pouvez dire?
Je voudrais simplement réaffirmer ce que nous avons dit tout à l'heure, que l'épidémie à virus Ebola est une réalité. Au-delà de toutes les pratiques qui ont été citées ici, la société civile, dans sa dernière intervention, a fait état également du transport de plusieurs personnes sur la même moto, où les personnes sont très serrées.
Ah, il y a des motos qui prennent 4 à 5 personnes. Hein?
Oui.
Voilà.
C'est donc un comportement qui laisse entrevoir que la sensibilisation n'a pas suffisamment atteint cette couche sociale-là. Nous avons parlé également des rassemblements dans les écoles, dans les marchés, dans les lieux publics en général. Peut-être que les spécialistes pensent que nous ne sommes pas arrivés au moment où il faut décréter une quarantaine, faire des barrières. Mais nous pensons que le principe devrait être de limiter autant que possible les contacts corporels, même entre élèves dans les écoles, même dans les marchés entre vendeurs, vendeurs et acheteurs, et ainsi de suite. Donc, bien aimé, le risque est là, le danger est à la porte de notre maison, cessons d'être distraits par tout ce qui se raconte. Nos parents avaient raison. Tout ce qui n'est pas expliqué par les sens est immédiatement attribué au surnaturel. On parle de mauvais sort, jeté par des sorciers. Mais les sorciers meurent aussi. Eux, spécialistes, ils meurent alors de quoi? Si c'est le mauvais sort, ils savent qui les jette. Ils savent en quoi consiste le mauvais sort. Ils peuvent donc éviter. C'est comme une pierre. Quelqu'un est devant, vous le voyez avec une pierre pour vous lancer. Vous allez esquiver. Mais pourquoi eux n'esquivent pas? Essayons d'observer les limites de nos convictions liées aux croyances pour comprendre que c'est un danger qui nous guette. C'est ensemble que nous allons vaincre cette épidémie.
Merci, Monsieur Fabien Munguza. Avant de prendre d'autres questions, docteur Bokenge, quelles sont les autres pratiques à risque?
Merci beaucoup. C'est par exemple aujourd'hui, avec la Coupe du Monde, nous nous rassemblons autour des écrans géants. On ne sait pas on est à côté de qui. Quelqu'un a dit qu'on ne voit pas toujours le sang, il a raison. Ça s'appelle maladie à virus Ebola. Simplement parce que, dans tous les cas, vous n'allez pas voir toujours le sang. Avant, on l'appelait fièvre hémorragique Ebola. La science a évolué avec l'expérience du terrain. On l'appelle maladie à virus et Ebola. Parce qu'il n'y a pas toujours le sang. L'élément important ici, c'est la fièvre. Et le sang n'apparaît que plus tard. Parce que l'évolution de la maladie, ce n'est pas au tout début que vous allez observer tous les signes. Alors n'en doutez pas. Au deuxième, troisième jour d'une personne qui est déjà atteinte, vous pouvez vous faire contaminer. Même s'il n'y a pas du sang. Donc je voulais élever cet équivoque-là.
D'accord.
Ce n'est plus une fièvre. Alors en ce qui concerne les précautions pour les chasseurs,
oui,
je crois que nous sommes en train d'évoluer. Sous d'autres cieux, il y a la surveillance du règne animal. Avec les hélicoptères, ils portent des puces, les animaux, on les suit. Et quand il y a des morts constatées, observées dans le règne animal, l'alerte doit être donnée. Ça arrivera un jour dans notre pays. Nous sommes en train d'aspirer vers la modernité, cela va arriver. C'est pour cela que, en tant qu'une zoonose, nous travaillons avec les vétérinaires. Et quand c'est le cas, parce que la population ici a parmi ses activités principales la chasse, nous faisons la sensibilisation en tirant, en leur donnant des informations à ces sujets. On ne va pas les habiller, on ne va pas leur donner des gants.
Merci pour la parole. Je réponds au nom de Madame Docteur Fariala. Je suis le chef de bureau de l'UNICEF. Alors, il y a eu plusieurs questions qui sont revenues sur la sensibilisation. Alors, j'ai voulu quand même placer un mot là-dessus. Quand l'épidémie a été déclarée, il y a eu un état des lieux qui a été fait par rapport aux zones que nous avons appelées les zones chaudes. Et il fallait, dans le premier temps, adapter une stratégie de communication par rapport à ces zones chaudes. Les zones chaudes, je pense que tout au long du débat ici, nous avons suivi les gens qui soulevaient, qui parlaient des villages, où on a eu des cas. Il y a le nom d'un village qui est revenu plusieurs fois, où on a eu le premier cas probable. C'est le village de Ikoko Ipenge, dans la zone de santé de Bikoro. Et en plus, il y a eu les autres villages. Et ce qu'on a adapté comme stratégie, c'était la priorisation. Donc on a d'abord priorisé les zones ou les villages où on avait des cas de cas confirmés, de cas contacts, de cas suspects. Donc c'est dans ces villages-là qu'on a priorisé, comme j'ai eu à le dire. Ce qu'on doit savoir, par rapport à la communication, il y a plusieurs stratégies. Il y a la stratégie de plaidoyer, il y a la stratégie de mobilisation sociale, c'est la communication de masse, un peu ce que nous sommes en train de faire maintenant. Il y a la communication pour le changement de comportement. Je pense que ici, le deuxième thème qui parle de pratiques à risque, ça fait partie de la communication pour le changement de comportement. Il y a le renforcement des capacités. Alors, ce que nous avons fait et que nous avons adapté les différentes stratégies par rapport aux problèmes qui se sont posés. Il y a eu des plaidoyers qui ont été faits. Par exemple, le tout premier temps de la riposte, nous avons eu ce que nous connaissons ici. Et je pense que nous allons quitter cette salle avec une connaissance supplémentaire par rapport à la maladie. Et que notre comportement va être changé. C'est-à-dire que nous avons eu vraiment des résistances et il a fallu que nous puissions faire le plaidoyer. Le plaidoyer à l'endroit des leaders communautaires. Parce qu'on a trouvé que si on parlait aux leaders communautaires, ceux-là, ils vont répercuter l'information au niveau de leur village et par la suite, nous avons vu que la situation s'est améliorée par rapport aux différentes interventions. Bon, maintenant pour revenir à ce que j'ai... Ça, je n'ai donné qu'un exemple par rapport au plaidoyer, mais si je dois rentrer dans les différentes stratégies, ça va nous prendre beaucoup de temps. Maintenant, s'il faut rentrer dans ce qui a été dit ici, j'ai entendu des questions qui ont été posées par rapport à la sensibilisation et même des réponses qui ont toujours été données dans certaines préoccupations. J'ai suivi ici quelqu'un qui a dit qu'on est en train de chasser les sensibilisateurs. C'est pour dire que la sensibilisation s'est faite. Elle se fait. Maintenant, qu'est-ce que nous devons retenir? Ce que nous devons retenir est que il ne faut pas croire que la sensibilisation, c'est l'affaire, par exemple, des invités qui sont là, ou bien la sensibilisation, c'est l'affaire de tous les partenaires qui sont en train de sillonner la ville, mais la sensibilisation, c'est l'affaire de nous tous. Du moment que nous avons l'information, nous constituons un sensibilisateur pour notre communauté, pour notre entourage.
D'accord, merci docteur.
Donc c'est ça vraiment le message que je voulais passer. L'autre chose, si vous permettez, j'atterris.
Oui.
C'est par rapport au lavage de mains. J'ai très bien suivi ce que docteur Bokenge a dit. Et il y a une préoccupation par rapport au dispositif de lave-mains. Mais là où j'ai voulu insister est que la pratique par rapport au lavage des mains n'implique pas d'avoir un dispositif de lave-mains. On peut très bien se laver les mains sans pour autant avoir un dispositif de lave-main là-bas. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il faut se laver les mains et correctement, et ça va nous protéger. Merci beaucoup.
Merci, docteur de l'UNICEF. Alors, on va terminer cette émission avec nos intervenants. On commence par le socio-anthropologue qui va dire un mot par rapport à tout ce qui a été dit.
Nous avons vu
la société civile, et on va terminer par avec docteur.
Nous Bukhina. Avons vu les gens mourir avec Ebola, d'autres mises en quarantaine et une forte mobilisation en vue d'éradiquer cette maladie dangereuse. Puisque, chers camarades étudiants, nous avons que deux yeux, la communauté internationale et le ministère de la Santé ont apporté une technologie avancée pour dépister et combattre le virus Ebola. Sur ce, là je vais citer, certaines pratiques, croyances et passéistes rétrogrades doivent être abolies, supprimées, pour céder place à une vision objective de la vérité.
Merci beaucoup, M. Jean-Louis Eoma, socio-anthropologue à l'Université de Mbandaka. Monsieur Fabien Mungunza, vous êtes président du cadre des concertations de la société civile. Pour terminer, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux pratiques à risque?
Nous saluons cette opportunité qui nous est offerte par Radio Okapi. Nous voudrions inviter les uns et les autres qu'il est temps. La prévention est le moyen le plus simple et le moins cher. Nous devons nous transformer tous, comme l'a dit tout à l'heure un intervenant, en sensibilisateurs les uns les autres, pour qu'ensemble nous puissions vaincre, n'est-ce pas, cet ennemi commun qui risque de nous déborder à un moment donné, et à ce moment-là, il sera trop tard. Évitons toutes les pratiques à risque qui ont été énumérées ici, peut-être pas de façon exhaustive, mais néanmoins, si celles-ci sont retenues, il est possible que nous puissions, n'est-ce pas, éviter la catastrophe. Merci.
Merci, docteur Bukenge.
Merci beaucoup. Après avoir eu tous ces échanges, je voudrais positiver cette séance en disant que, en sortant d'ici, très chers étudiants et autres participants à cette émission, nous devons nous constituer un véritable bouclier, un véritable obstacle, barrière pour la circulation du virus dans notre milieu de vie en mettant en pratique ces simples règles d'hygiène et notamment le lavage de mains. Et j'ai beaucoup apprécié ce que madame vient de nous dire de l'UNICEF. Ce n'est pas nécessaire d'avoir le dispositif de lave-main chez soi, mais nous avons dans notre maison de l'eau, nous avons, avant de manger, un endroit où nous devons nous laver les mains. Quand nous sortons de nos installations sanitaires, nous devons le faire. S'il vous plaît, acceptons de nous faire violence pour changer et abandonner les comportements à risque qui feraient encore des victimes parmi nous et parmi nos êtres chers pour que nous continuions à pleurer. J'ai confiance en vous. Je sais que dans un milieu d'intellectuels, on s'entrechoque, mais on arrive toujours à la bonne conclusion.
Merci, docteur Mokenga. Voilà. Sous vos applaudissements, c'est par ici que nous mettons un terme à l'émission Okapi Service en direct de l'amphithéâtre de l'ISP Mbandaka. Merci d'être venu. Merci à tous les intervenants de cette émission et merci à toute la grande équipe de production. Merci à Tati Mapoukou, Jean-Marc Matouaki. Nous avons Patrick Yassongwa, Elisabeth Lorne-Jipo. Merci à vous tous, à tous les intervenants. Je n'ai pas oublié Dominique Wolombi et toute la grande équipe de Radio Okapi Mbandaka. À la prochaine.